Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 8h à Port-au-Prince. RFI midi, suite et fin, on est ensemble pendant 30 minutes pour faire le tour de l'actualité d'Haïti et du continent américain. On ira d'abord au Salvador pour parler de l'exploitation minière. Elle était bannie depuis 2017, mais a été réautorisée en début de semaine. Et vous l'entendrez, cela suscite la colère des écologistes. Notre invité aujourd'hui, le réalisateur haïtien Raoul Peck. On parle avec lui de son film, en salle en ce moment en France, et de son prochain projet. Et puis l'actualité des Caraïbes, c'est avec vous Alex Léveillé, d'Outre-mer la première. À la une, Alex, nous irons en Guadeloupe et en Martinique.
Et oui, pour parler du retour du scorbut et du dent du son.
A tout à l'heure, Alex. Mais d'abord, c'est le journal. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Arthur, bonjour à tous.
À la une, la Corée du Sud continue de s'enfoncer dans la crise politique.
Oui, après le chef de l'État, c'est au tour du président par intérim d'être destitué. L'opposition sud-coréenne majoritaire au Parlement vient d'infliger un nouveau revers au Parti conservateur au pouvoir. Ce matin, une majorité de députés a approuvé la destitution du chef de l'État par intérim, Han Duk-soo. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un président par intérim tombe après le président titulaire. Précision et explication avec Yelena Tomic.
La censure est sans appel. Han Duk-soo doit partir. Ainsi en ont décidé les 192 députés qui ont pris part au vote sur les 300 que compte le Parlement. La séance houleuse s'est déroulée dans une ambiance surchauffée, alimentée par des chants et des protestations du camp présidentiel. L'opposition accusait Han d'avoir activement participé à l'insurrection après la tentative avortée du président Yoon, destitué depuis, d'instaurer la loi martiale début décembre. Le président par intérim a également été destitué pour entrave intentionnelle à l'enquête spéciale visant à interroger les personnes impliquées dans la rébellion, lit-on dans le texte de la motion. L'opposition reprochait aussi à celui qui est également Premier ministre de refuser de pourvoir 3 des 9 sièges de la Cour constitutionnelle. L'instance, qui a commencé aujourd'hui ses audiences préliminaires, doit prendre une décision à la majorité des 2/3 sur la destitution, cette fois, du président Yoon Suk-yeol. Or, si les 3 sièges vacants ne sont pas pourvus avant la fin de la procédure, les 6 juges restants devront statuer à l'unanimité pour chasser définitivement Yoon du pouvoir. C'est maintenant au ministre des Finances, Choi Sang-mok, de prendre les rênes par intérim. Le bras de fer continue.
Yelena Tomic. Au Yémen, les rebelles houthis revendiquent des attaques de missiles et de drones sur Israël, sur Tel Aviv, l'aéroport Ben Gurion en particulier, ainsi que sur un navire en mer d'Arabie. Leurs frappes ont été lancées au lendemain de raids aériens sur des sites contrôlés par la rébellion chiite soutenue par l'Iran, l'aéroport de Sanaa, notamment la capitale du Yémen. Le régime de Bachar al-Assad est tombé, mais près de 3 semaines après, la situation politique n'est pas stabilisée en Syrie. Le pays est par ailleurs toujours confronté à une grave crise énergétique. Ce sont surtout l'électricité et le gaz qui manquent. Le gouvernement intérimaire a promis une amélioration grâce à des accords passés avec la Jordanie et avec la Turquie. Il faut reconnecter la Syrie aux réseaux énergétiques. En attendant, la situation reste critique. Reportage à Damas de Mohamed Erami.
Dans le quartier de Jalamana, à l'est de Damas, Saïd, 40 ans, vit dans un appartement bien équipé. Carrelage impeccable, four, réfrigérateur, machine à laver, mais rien ne fonctionne. Sans gaz ni électricité, tout est inutile. Les coupures laissent sa famille dans le froid et l'obscurité, contraignant chacun à improviser pour le quotidien.
Nous ne pouvons ni conserver les aliments au réfrigérateur car ils se gâtent, ni remplir d'eau nos réserves sur les toits, et nous ne pouvons pas laisser les enfants prendre une douche car l'eau ne peut pas être chauffée. Franchement, nous souffrons beaucoup de ce problème et nous espérons que Dieu le résoudra afin de pouvoir vivre une vie normale.
Non loin, Aitem, propriétaire d'un supermarché, lutte pour préserver ses marchandises. Ses réfrigérateurs fonctionnent à l'essence grâce à un générateur, un luxe coûteux. Face aux coûts élevés, il réduit ses horaires et risque de fermer définitivement, explique l'homme.
L'électricité est disponible de midi à 13h, ensuite elle est coupée jusqu'à 18h, puis ça revient une heure et ça coupe de nouveau jusqu'à minuit, puis à 1h du matin un petit peu et ensuite c'est terminé. Comme les marchandises se gâtent rapidement dans le magasin, nous n'achetons pas beaucoup de stock, mais seulement ce que nous pourrons vendre à temps.
En attendant les promesses d'un meilleur approvisionnement énergétique, les Syriens restent prisonniers d'un quotidien où la lumière et la chaleur sont devenues des privilèges rares. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, a prononcé ce matin à Dakar sa déclaration de politique générale. Il a expliqué aux députés comment son gouvernement comptait développer le pays à court et à long terme. Ce gouvernement va par ailleurs déposer un projet visant à abroger la loi d'amnistie de l'ex-président Macky Sall. La mesure d'amnistie couvre les 3 ans de violence politique entre 2021 et 2024. Il y avait eu des dizaines de morts. Il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières, mais encore moins de vengeance. Il s'agit de justice, a expliqué ce matin au député Ousmane Sonko. Direction maintenant l'Équateur, où 4 jeunes ont disparu après avoir disputé une rencontre de football. C'était le 8 décembre, près de la ville réputée dangereuse de Guayaquil. Un temps présentés comme de possibles délinquants, les jeunes gens ont probablement été victimes d'une bavure, comme l'explique notre correspondant à Quito, Eric Sanson.
4 corps totalement incinérés ont été découverts dans une zone isolée de mangroves, près de la base aérienne de Taora, proche de la ville de Guayaquil. Les corps n'ont même pas pu être reconnus par les familles des 4 mineurs de 11, 14 et 15 ans détenus le 8 décembre dernier par une patrouille de l'armée de l'air équatorienne. Faute d'empreintes digitales, les médecins légistes vont maintenant rechercher des traces d'opérations ou de cicatrices sur les cadavres en attendant des tests d'ADN. Après avoir affirmé, peu après la disparition des mineurs, que ces derniers avaient été enlevés par un groupe de délinquance organisée, le ministre de la Défense a fait évoluer son discours lorsque les images de caméras ont montré 2 des mineurs embarqués de force dans une camionnette et maltraités par des militaires. Les 16 membres de la patrouille de l'armée de l'air ont d'ailleurs été arrêtés. Les autorités affirment aujourd'hui que les mineurs ont été relâchés de nuit au lieu d'être remis à la police et qu'ils auraient ensuite été victimes de délinquants. Une explication qui ne convainc pas grand monde en Équateur et compromet l'image des forces armées qui sont au centre de la politique sécuritaire du président Daniel Noboa, candidat à la réélection en février prochain. Eric Sanson, Quito, RFI.
L'État de New York aux États-Unis représente à lui seul la 10e économie mondiale. Il compte faire payer les entreprises grandes consommatrices d'énergie fossile pour leur responsabilité dans le dérèglement climatique, montant la facture 75 milliards de dollars sur les 25 prochaines années. L'argent servirait à financer des travaux de réparation et d'adaptation aux événements climatiques extrêmes. Lucille Gimbert, bonjour.
Bonjour.
Malgré les protestations du secteur, la gouverneure de cet État démocrate vient de signer une loi en ce sens.
Oui, tempête côtière aggravée par la montée des eaux, vagues de chaleur et inondations plus fréquentes, saison agricole perturbée. L'État de New York est frappé par les effets du réchauffement mondial, qui, on le sait, est causé par l'extraction et l'usage du gaz, du pétrole et du charbon. Et l'État de New York a décidé d'appliquer le principe pollueur-payeur, calqué sur la loi qui oblige depuis 1980 les entreprises à payer pour financer la gestion des déchets toxiques. Ce super fonds climat mettra à contribuer les plus grosses entreprises des énergies fossiles, celles qui ont émis plus d'1 milliard de tonnes de gaz carbonique entre 2000 et 2018. L'argent récolté, vous le disiez, 75 milliards de dollars sur 25 ans à partir de 2028, devra servir à financer des réparations après les événements climatiques extrêmes, mais aussi des travaux d'adaptation, par exemple pour restaurer des zones humides, renforcer des routes ou des ponts, améliorer des systèmes de drainage, élever des infrastructures, des programmes de santé aussi traitant des blessures et maladies liées au changement climatique seront également soutenues. Après le Vermont, il y a quelques mois, et donc désormais l'État de New York, d'autres États américains pourraient suivre le mouvement, le Maryland, le Massachusetts ou encore la Californie.
Lucille Gimbert, merci. J'ajoute que les experts s'attendent à ce que les majors des énergies fossiles contestent cette loi en justice. Et puis en France, après un important recul l'an dernier, la baisse des émissions de gaz à effet de serre a montré cette année des signes de ralentissement, affichant même une légère hausse au 3e trimestre, encouragée par les secteurs du bâtiment et des transports. Ce ralentissement de la baisse nous rappelle qu'il ne faut pas baisser la garde. C'est ce qu'a souligné chez nos confrères de RTL la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Voilà, très bonne journée sur RFI, tout de suite en compagnie d'Arthur Ponchelet.
Merci Gilles Moreau, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal. Il est 8h09 à Port-au-Prince.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Et 7h09 à San Salvador, 57 voix pour sur 60 députés. Ce lundi, le Parlement du Salvador a réautorisé l'exploitation minière. Elle était interdite depuis 2017 pour protéger les faibles ressources nationales en eau. C'est Nayib Bukele, le très médiatique président du petit pays d'Amérique centrale, qui a poussé ce projet, dont l'objectif est clair, relancer l'économie, alors que plus d'un quart des habitants du Salvador vivent dans la pauvreté. Le projet, défendu par le président, est décrit criée par les associations environnementales. On fait le point avec Lila Olkinwora.
Nayib Bukele a réussi à débarrasser son pays de la violence des gangs à coups d'état d'urgence et d'arrestations massives, mais l'économie du pays, elle, reste mal en point, malgré des ressources naturelles abondantes. Une absurdité que n'a eu de cesse de répéter le président salvadorien au cours des derniers mois.
Ça ne vous semble pas étrange que le seul pays au monde qui interdise l'extraction minière soit le Salvador ? Je comprendrais les oppositions si d'autres pays avaient interdit les mines après nous, les pays écologistes par exemple, mais non, aucun autre. Tous profitent de leurs ressources minières, sauf le Salvador. Ça n'a pas de sens.
De l'or notamment, mais pas que, un don de Dieu selon Nayib Bukele, une source de richesse et d'emploi, à même de changer la face de l'économie salvadorienne du jour au lendemain.
Le Salvador a potentiellement 3 billions, c'est-à-dire 3 millions de millions de dollars d'or sous ses pieds. Mais on a aussi découvert du gallium, du tantal, de l'étain. L'or n'est qu'une partie de notre découverte, et ce n'est pas la plus chère.
Lundi 23 décembre, le président a donc demandé au Parlement, où son parti est ultra-majoritaire, d'abroger cette loi sur l'extraction minière et de lancer des appels d'offres pour profiter de ce qu'il vante comme la plus forte densité au monde de gisements d'or. Un recul qui inquiète Vidalina Morales, militante d'une plateforme d'associations salvadoriennes contre l'extraction minière. Elle a participé ces dernières décennies aux mobilisations contre cette extraction qui ont abouti à son interdiction en 2017.
Esto es peligroso para...
C'est effrayant quand on pense à ce que cette lutte a signifié au Salvador. Elle a duré près de 20 ans. Aujourd'hui, nous avons la triste nouvelle de ce retour en arrière qui nous oblige à alerter de nouveau le peuple salvadorien.
Principale inquiétude, les maigres ressources en eau du pays qui sont doublement menacées par l'exploitation minière. L'eau est utilisée dans le processus d'extraction, mais elle est également polluée en surface et au niveau des eaux souterraines. Pour Ricardo Navarro, président des Amis de la Terre Salvador et opposant à la loi, la taille de son pays le rend encore plus fragile face à l'extraction minière. Contamination de l'air en plus de l'eau, déboisement, les effets toxiques des mines risquent de se propager sur l'ensemble du territoire, à proximité des habitants.
Pour nous, l'interdiction de 2017 était une grande victoire. À cause des mines, nous avons connu de hauts niveaux de pollution de l'eau, des personnes déplacées de force. Dans ce pays, à cause du déséquilibre qu'a causé le déboisement sur l'environnement et malgré de fortes pluies, nous n'avons pas assez d'eau potable. Après tout ça, venir recontaminer les fleuves, c'est une honte.
Des arguments qui n'ont pas pesé face à la manne financière espérée par Nayib Bukele, qui cite abondamment une étude pourtant jamais publiée. Les bénéfices de cette exploitation seraient estimés à 380% du PIB. Face aux critiques, Bukele promet une extraction moderne et durable.
Si nous faisons une exploitation responsable de nos ressources naturelles, comme certains autres pays le font, la Norvège par exemple, nous aurons les moyens de nettoyer nos lacs, nettoyer nos rivières, reboiser nos forêts.
Un simple concept publicitaire, dénonce les ONG de défense de l'environnement. Pour Vidalina Morales, l'interdiction de l'usage du cyanure dans la nouvelle loi n'est en aucun cas la garantie d'une extraction responsable.
Il n'y a pas d'exploitation minière non polluante à l'heure actuelle. Dans certains pays fortement industrialisés, peut-être qu'on peut en trouver. Mais l'exploitation minière aujourd'hui utilise du cyanure, un produit chimique hautement mortel. Nous ne voyons donc pas comment cette exploitation peut être développée d'une manière qui soit, comme le dit Nayib Bukele, durable ou soutenable. Aucun de ces termes n'est réaliste face à la situation de vulnérabilité environnementale que nous connaissons dans notre pays.
La nouvelle loi votée par 57 députés sur 60 va permettre les activités d'exploration, d'exploitation et d'extraction minière dans le pays. Une décision impopulaire et irresponsable selon les 300 opposants qui s'étaient réunis devant le Parlement au moment du vote.
Dossier signé Lila Olkinwora.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Le ministre haïtien de la Santé publique, limogé d'Oukerson Lort Blema, est remplacé par Patrick Pélissier, qui occupait jusque-là le poste de ministre de la Justice. Conséquence de la cérémonie de réouverture de l'hôpital général qui a viré au bain de sang ce mardi. Le désormais ex-ministre de la Santé avait convié des journalistes à la cérémonie sans s'être assuré au préalable que la sécurité pouvait être assurée. Plus grave encore, il est soupçonné de connivence avec les gangs. Autant de questions qui devront impérativement trouver une réponse, souligne l'agence de presse haïtienne Alter Press. On part à présent pour le Québec. Comme beaucoup de provinces du Canada, la main-d'œuvre qui y travaille vient des quatre coins du monde. Objectif, occuper des emplois non pourvus par la population vieillissante. C'est ce qu'on appelle les permis fermés. Les étrangers ne peuvent travailler que pour les employeurs indiqués sur leur visa. Oui, mais ça, c'était avant, car les règles ont changé il y a quelques mois. Désormais, une même entreprise ne peut employer plus de 10% d'étrangers à bas salaire. Des étrangers pour qui il devient donc de plus en plus difficile de demander une résidence permanente au Québec. Et pour l'industrie locale, ces changements ont beaucoup de répercussions. Reportage de Pascal Guéricola.
Assez bon pour travailler, assez bon pour rester.
Des manifestants défilent ce jour-là dans les rues du Québec pour dénoncer le resserrement des règles d'immigration. Dans la foule, on retrouve des ouvriers qualifiés comme ce Philippin, recruté l'an dernier dans son pays d'origine par un fabricant de structures de métal.
Well, we don't know our situation.
Nous ne savons pas ce qui va se passer, si on peut rester ou non. Cela nous inquiète et c'est pour ça que nous sommes ici, afin de défendre les droits de tous.
Fight for the right of everyone.
Comme beaucoup d'autres, ce Philippin fait face à la suspension pendant plusieurs mois par le gouvernement du Québec du droit de passer d'immigrant temporaire à résident permanent. Maxime Dion est conseiller syndical pour la CSN.
On dit à ces gens-là, quand on avait besoin de vous, on vous a fait rentrer comme immigrant temporaire. Maintenant, on n'a plus besoin de vous. Le Québec en prend trop d'immigrants, donc je coupe. Et pour ceux qui avaient déjà déclenché la procédure, tout est arrêté. Donc c'est réellement odieux de changer les règles du jeu comme ça, surtout pour des gens qui veulent contribuer, veulent s'intégrer.
Sur le site ici, on est 150 personnes, 150 membres d'équipe.
Cette entreprise qui fabrique des pièces en métal emploie des soudeurs et d'autres ouvriers qualifiés venus de Colombie, de France et du Maghreb. Une diversité mise en valeur dans cette PME. Cependant, les nouvelles règles du gouvernement canadien l'obligent à employer 10% maximum de main-d'œuvre étrangère. Une véritable catastrophe pour cette usine qui ne réussit pas à recruter de nouveaux employés dans une région où le taux de chômage est inférieur à 3%. François Bougie, directeur de CBMD.
Vu qu'on est quand même limité dans le nombre de personnes qu'on peut renouveler leur permis, on doit faire des choix, un peu des fois selon le département, selon nos besoins de département actuel. Donc, il y a un choix déchirant à faire de ne pas renouveler tout le monde.
Un choix déchirant, cela veut dire ne plus pouvoir employer d'ici quelques mois ce soudeur recruté par l'entreprise en Tunisie il y a 2 ans. Adèle regrette d'avoir quitté son pays.
Si je vois ce changement avant d'arriver ici, je n'arrive pas ici. Je passe un mauvais moment. Je ne trouve pas de solution maintenant. J'ai perdu 2 ans ici. Je suis avec ma famille, ce n'est pas tout seul. C'est ça le problème.
Penché sur une pièce de métal à souder, Leonardo s'inquiète aussi pour son avenir. L'entreprise l'aide dans ses démarches d'immigration longues et coûteuses pour devenir résident permanent du Québec. Ce père de famille colombien se demande bien ce qu'il pourrait se passer si sa demande n'aboutit pas.
C'est difficile de penser que nous devrions être obligés de partir. L'idée de quitter le Canada me fait peur. Ce n'est pas facile parce qu'ils ont changé les lois si rapidement. Nous avons démarré une nouvelle vie en venant ici au Canada, en ayant tout laissé derrière pour redémarrer à zéro.
Pour le groupe mondial qui regroupe des usines de métal, le départ de plusieurs salariés étrangers a des incidences économiques graves. Cela pourrait obliger ses dirigeants à réduire les horaires de travail et donc à baisser la production. Au grand déplaisir du fondateur du groupe, Louis Veilleux.
Tout le travail et les investissements qu'on a fait depuis plusieurs années sont mis en danger par la limitation du nombre de travailleurs qu'on peut avoir. Moi, personnellement, et un groupe d'hommes d'affaires, on met beaucoup de pression au niveau du gouvernement. On croit qu'on va être capable de faire changer cette règle-là. Si on ne peut pas changer cette règle-là, ben on va jusqu'à penser d'amener le gouvernement en justice pour les pertes qu'on va aller chercher. Si le gouvernement prend des virages qui sont néfastes aux entreprises, il va devoir en payer le coût.
Confrontés aux mêmes difficultés, des PME s'interrogent sur leur avenir. Certaines, situées près de la frontière américaine, envisagent même de délocaliser une partie de leur main-d'œuvre étrangère
aux États-Unis. Pour l'instant, le gouvernement canadien maintient le cap, bien décidé à baisser la proportion d'immigrants temporaires de 7 à 5%. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Un reportage de Pascal Guéricola à retrouver sur notre site www.rfi.fr. Avant de retrouver nos confrères de La Première pour l'actualité des Caraïbes, notre invité aujourd'hui est un réalisateur haïtien renommé, Raoul Peck, dont le dernier film, un biopic sur le photographe Ernest Cole, déjà primé à Cannes, est à l'affiche dans les salles obscures en France. Raoul Peck a fait un détour par les studios de RFI pour évoquer ce film et son prochain projet, un long métrage autour de l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse. Il est au micro de Sophie Torlotin, avec qui il évoque la situation dans son pays.
Oui, bien sûr, je vis au jour le jour avec Haïti. Je participe au combat de la société civile actuellement en Haïti. Je parle presque tous les soirs avec Haïti, avec le décalage horaire. Donc oui, et puis je suis en colère aussi avec ce qui se passe en Haïti. Le silence des soi-disant amis d'Haïti, de la communauté internationale, qui ont laissé le pays dans le gouffre des gangs, des oligarques, des narcotrafiquants, du blanchiment de l'argent, etc., auxquels participent, en tout cas avec la complicité, entre autres, des Américains qui ne contrôlent pas leurs frontières, qui pourraient en effet bloquer les envois d'armes vers Haïti, qui est devenue une plaque tournante. En fait, les trois réseaux se superposent. Blanchiment d'argent, trafic d'armes et narcotrafic. Et le territoire haïtien, aussi bien la République dominicaine, c'est pareil. Donc, et on sait, par exemple, que Haïti, le système bancaire Haïti, serve à dégager de l'argent pour des opérations illégales des services américains. Donc ça, on le sait depuis des décennies.
Donc, il y a un intérêt à laisser faire.
Ah, absolument. C'est un territoire sans importance, à part cette importance-là. Parfois, il y a des Haïtiens qui disent « Ah oui, mais on a de l'or, peut-être on a de l'or, du pétrole, etc. » Mais ce n'est pas ça. C'est un point névralgique pour tous les trafics. On oublie que le scandale Irangate, Oliver North qui a fait de la prison pour ça, dans le trafic des armes entre l'Iran et le Nicaragua, les armes passaient par Haïti. Donc on le sait, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui encore, quand les envoyés des Nations Unies qui travaillent sur les trafiquants de drogue en Haïti, on sait très bien que c'est pratiquement un lieu de dispatching pour tous ces trafics qui se recoupent. On retrouve les mêmes, y compris des potentats politiciens, politiques, y compris les gangs qui participent et qui d'ailleurs ont été créés par une partie de ce monde politique et par une partie des oligarques.
Raoul Peck, je crois que vous aviez un projet de film sur le président Jovenel Moïse qui a été assassiné.
On est en plein dedans, on y travaille depuis
vous
3 ans
pas,
déjà.
Voilà, vous n'y avez pas renoncé.
Non, parce que c'est un projet compliqué, c'est un projet d'enquête, donc les enquêtes prennent du temps, les gens parlent, donc il faut faire la démarche et entretenir les relations pour qu'ils vous fassent confiance et qu'ils vous parlent, parfois sur leur rôle. Donc on a beaucoup avancé là-dessus. Et puis c'est un projet complexe, puisque il y a actuellement un procès aux États-Unis sur une partie des gens qui ont participé à ce complot. Et tous les documents sont classifiés. C'est-à-dire, les avocats, c'est avec beaucoup de mal qu'ils ont eu finalement accès aux documents de l'accusation. Mais ils ne peuvent pas ni le divulguer, ils ne peuvent pas ni en parler ouvertement, même avec leurs clients, c'est très compliqué, parce qu'ils doivent être dans un lieu sécurisé pour pouvoir... et c'est des millions et des millions de pages de documentation. Donc on les a ensevelis. Et le procès a été repoussé plusieurs fois. Là, il y a un ou deux mois, ils l'ont repoussé pour l'année prochaine. Donc c'est sans fin et on espère que ça va disparaître. Mais en attendant, voilà, il y a encore 20 Colombiens en prison en Haïti et quelques autres Haïtiens et qui sont probablement en prison pour une longue période.
Raoul Peck avec Sophie Torlotin et Elisabeth Le Quéré à retrouver dans l'émission Tous les cinémas du monde. Rendez-vous demain à partir de 15h10 temps universel.
Le journal de l'Outre-mer.
L'actualité des Caraïbes dans RFI Midi, c'est avec vous Alex Léveillé d'Outre-mer La Première. À la une aujourd'hui, il avait complètement disparu en France. Le scorbut, maladie des temps anciens, fait son retour.
Et oui, depuis la crise Covid, le nombre de cas est en augmentation selon une étude publiée dans la revue scientifique britannique de Lancet. En cause, l'accroissement de la précarité engendrée par l'inflation. Pascal Pétrine de Guadeloupe La Première.
Qui l'eût cru entendre de parler de scorbut de nos jours ? Cette maladie est souvent évoquée dans les films d'époque, de pirates surtout. Très répandue entre le 16e et le 19e siècle, elle marque son grand retour en France. En 2015, 888 personnes avaient été hospitalisées à cause de la peste des mers, comme on l'appelle aussi. Selon cette étude réalisée notamment par l'INSERM et le service pédiatrique de l'hôpital de Cayenne, le nombre de cas a augmenté de 34% entre 2020 et 2023. En partie donc, durant la pandémie du Covid, particulièrement touchée, les enfants. Selon les spécialistes, la résurgence du scorbut est liée à la précarité et aux effets de l'inflation, notamment sur le prix des fruits et légumes devenus moins accessibles, car le scorbut est causé par une carence en vitamine C. Il se manifeste entre autres par une grande fatigue, une faiblesse musculaire et articulaire, un gonflement et un saignement des gencives et des hémorragies cutanées. Même s'il s'agit d'une affection grave, elle est aujourd'hui rarement mortelle.
Pascal Pétrine de Guadeloupe La Première. Restant dans le domaine médical, mais cette fois-ci en Martinique, l'établissement français du sang de l'île aux Fleurs lance un appel aux dons. Il faudrait par jour 60 poches de sang. Franck Aufur, médecin responsable du prélèvement à l'EFS Martinique.
Les personnes se mobilisent moins. Les Martiniquais ne sont pas forcément disponibles, ne sont pas forcément sur le territoire. Ils ont d'autres choses à faire. Et effectivement, on a une baisse du nombre de dons quotidiens sur cette période. Alors, il faudrait qu'on ait 60 dons par jour pour être autosuffisant en sang. Mais malheureusement, on arrive à peine à 50% sur une période normale. Et là, depuis le début de semaine, on a une moyenne de 15 poches par jour. Donc, il y a une nette baisse sur cette période des vacances scolaires à Noël. Alors, c'est inquiétant. Ben, les besoins sont réels, effectivement, toute l'année. Mais là, particulièrement, vous avez vu les événements. Il y a des accidents, il y a des raisons d'hémorragie, on va dire, graves de blessures. Et paradoxalement, c'est la période où effectivement les personnes donnent moins, donc ce déficit est accru et dangereux pour sur la santé publique de notre île. Il faut qu'on puisse répondre à des demandes de transfusion à n'importe quel moment de l'année, et particulièrement sur cette période qui est, on va dire, à risque.
Franck Aufur, médecin responsable du prélèvement à l'EFS Martinique, était au micro de Lauriane Saint-Louis de Martinique La Première. Et c'est la fin de cette édition. Merci à Nicolas Palcochian pour la réalisation et excellent début de week-end à tous.
Très bon week-end à vous aussi, Alex Léveillé. Merci beaucoup. Il est bientôt 13h30 en temps universel, 8h30 à Port-au-Prince. C'est ainsi que s'achève cette édition de RFI Midi, préparée, réalisée avec Stéphane Desfossés, Anne Cantner, Joris Zilberman et Emmanuel Klotz. Merci à eux, merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est De Vive Voix sur RFI. D'ici là, on se quitte en musique. Musique brésilienne dans RFI Midi, Criollo et son titre Lingua Felina.
Lingua Felina, menino ou menina, amor ou desamor. Logo percebi pelo tamanho do caixão, vejo velório. Minha língua, língua felina, menino ou menina, amor ou desamor. Logo percebi pelo tamanho do caixão, do fecho velório, do linguarudo chegou. E foi ficar no benzimento na oração. Família sofre independente do irmão. Tava nessa situação, um linguarudo abraçado em outro caixão. Ô, minha língua, língua.
sia mai sassito un tema di rocamboli. Voli, non voli, mexi, non mexi, quanto mais mentia, mais seguia nesse.